Et l'on débute avec le journal de Benoît Bouscarel. Mais bonjour Benoît.
Mais bonjour, bonjour à toutes et à tous. La campagne qui permettra l'élection d'un successeur à Theresa May à la tête du Parti conservateur débute aujourd'hui au Royaume-Uni. Les candidats vont officiellement se faire connaître, chacun avec sa vision du Brexit. Le grand favori, Boris Johnson, a donné le ton de la campagne dès hier. Il veut un Brexit dur et pas question pour lui de payer sans condition ce que le Royaume-Uni doit à l'Union européenne. Correspondance à suivre d'Antoine Gignot.
6 mois après son lancement, l'Instex, un mécanisme commercial entre l'Europe et l'Iran destiné à contourner les sanctions américaines, n'est toujours pas opérationnel. C'est ce que nous expliquera Christian Chesneau, alors qu'aujourd'hui, par ailleurs, l'AIEA se réunit à Vienne pour faire un nouveau point sur le dossier du nucléaire iranien.
Jean-Dominique Senard, fragilisé à la tête de Renault alors qu'une assemblée générale des actionnaires du groupe est prévue cette semaine, la position du nouveau patron est jugée délicate après l'intervention de l'État dans le dossier de l'alliance avec Fiat Chrysler la semaine dernière.
Et puis dans ce journal également, les travaux de restauration d'un monastère chrétien du 4e siècle dans la bande de Gaza, le monastère de Saint-Hilarion, au centre des préoccupations d'archéologues et d'humanitaires.
Reportage de Marine Vlaovic à 7h15, la question du jour, Guillaume.
Eh bien, Thermomix, vous savez, c'est une véritable passion. Et justement, Benoît, je sais que vous la partagez d'ailleurs. Pourquoi tant de passion pour les robots de cuisine? On posera la question à un historien, Jean-Claude Demas.
À tout à l'heure. Au Royaume-Uni, les candidats à la succession de Theresa May vont pouvoir se faire connaître officiellement à partir d'aujourd'hui. 11 personnalités ont déjà fait part de leurs intentions de se présenter, ministres ou anciens ministres qui rêvent de prendre le parti conservateur et, dans le même mouvement, la tête du gouvernement. Objectif, réussir à mettre enfin le Brexit sur les rails, avec des stratégies évidemment très différentes. Jeremy Hunt, l'actuel ministre des Affaires étrangères, est partisan d'un dialogue avec Bruxelles. L'ultralibéral Dominic Raab défend lui une ligne dure sur le Brexit, tout comme le favori de cette élection, Boris Johnson. Être passé tout près d'un procès pour mensonge en 2016 n'empêche pas l'ancien maire de Londres d'être en tête des sondages et il en profite pour pousser son avantage. Ses nouvelles promesses hier ont donné le ton de la campagne. Antoine Gignot à Londres.
Nous ne paierons pas la facture de sortie de l'Union européenne, explique Boris Johnson, à moins d'obtenir des concessions de la part de Bruxelles. Dans les médias, BBC en tête, l'ancien ministre des Affaires étrangères se présente comme l'homme providentiel dont les conservateurs ont besoin pour contrer le parti du Brexit de Nigel Farage arrivé en tête aux élections européennes. Contre toute attente, ses anciennes bourdes diplomatiques, ses mensonges pourraient bien le servir, explique Tim Bale de la Queen Mary University.
Boris Johnson a une personnalité très forte et c'est ce dont les conservateurs ont besoin pour faire face à Nigel Farage. Et puis dans la tête des gens et donc dans la tête des militants, il est associé à un discours très pro-Brexit. Après tout, c'est lui qui a dirigé la campagne de 2016 pour quitter l'Union européenne. Il est extrêmement bien positionné.
D'autant mieux positionné que son principal rival, Michael Gove, est depuis 2 jours au cœur d'un scandale, obligé de reconnaître, à la suite d'un livre, qu'il a pris à plusieurs reprises de la cocaïne lorsqu'il était jeune, à une époque où il était, tout comme Boris Johnson, jeune journaliste.
Antoine Gignot. Le processus de désignation du successeur de Theresa May va prendre plus d'un mois. Le monde n'en peut plus de ce président aux États-Unis, Bernie Sanders, candidat aux primaires démocrates en vue de l'élection présidentielle de l'an prochain, a durement critiqué Donald Trump hier, minimisant, comme d'autres démocrates avant lui, l'accord passé ce week-end avec le Mexique pour tenter de limiter la crise migratoire. Hong Kong maintient le projet de loi autorisant les extraditions vers la Chine continentale. C'est ce qu'annonce ce matin le gouvernement pro-Pékin de la région administrative indépendante au lendemain pourtant du succès d'une mobilisation populaire opposée au texte. Mobilisation qui a rassemblé plus d'1 million de personnes dans les rues de Hong Kong.
7h04 sur France Culture, c'est la suite du journal de Benoît Bouscarel. L'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, se réunit aujourd'hui à Vienne pour examiner le dossier nucléaire iranien suite à l'annonce faite par Téhéran de ne plus respecter certaines clauses de l'accord de 2015.
Une décision qui fait suite au désengagement américain et à propos de laquelle Heiko Maas a exprimé ses inquiétudes ce week-end. Le ministre allemand des Affaires étrangères en tournée moyenne orientale sera d'ailleurs à Téhéran aujourd'hui pour tenter de sauver l'accord. Il doit rencontrer notamment le président Hassan Rouhani. Et un autre sujet sera sur la table, l'INSTEX, un mécanisme commercial avec l'Iran mis en place pour tenter de contourner les nouvelles sanctions américaines. Cela dit, 6 mois après son lancement, ce système n'est toujours pas opérationnel. Christian Chéneau.
C'est aujourd'hui une structure fantôme. Depuis sa création en janvier dernier, INSTEX, le mécanisme européen de troc avec l'Iran, n'a effectué aucune transaction commerciale, ni dans le secteur des médicaments, ni dans celui de l'agroalimentaire, les deux domaines où les échanges sont autorisés. Pour les Européens, c'est un véritable fiasco diplomatique et économique, estime l'avocat d'affaires franco-iranien Ardavan Amir Aslani.
INSTEX, c'est devenu simplement une structure vide, une coquille vide, avec 3000 euros de capital social, partageant la France, l'Angleterre et l'Allemagne, sans avoir le début de l'ombre d'un copec dans ses caisses, puisqu'il n'y a pas eu un euro qui aurait été transféré entre l'Iran et la France, l'Iran et l'Europe, l'Europe et l'Iran. En fait, aujourd'hui, les Américains, avec l'extraterritorialité de leurs droits, ont réussi à imposer leur façon de voir à l'ensemble de la planète.
Face aux pressions américaines, les sociétés européennes ont baissé pavillon. L'Iran est devenu un pays pestiféré, constate depuis Téhéran Mehdi Miremadi, patron de la Chambre de commerce et d'industrie franco-iranienne.
Les sociétés, ils ne répondent même pas aux emails, ils ne répondent même pas au téléphone. Quand les sociétés iraniennes leur écrivent, ils ne répondent pas. Moi, je ne sais pas de quoi ils ont peur. De répondre, au moins. Peugeot sont partis, Renault, ils sont partis, Total, ça fait longtemps qu'ils sont partis. Même L'Oréal nous a lâchés.
Isolé commercialement, l'Iran est aujourd'hui contraint de revenir à une économie de contrebande.
Christian Chéneau. En France, semaine chargée chez Renault, une assemblée générale des actionnaires est prévue. L'occasion de mettre un terme définitif à l'ère Carlos Ghosn. Il y sera également question pendant cet AG du rendez-vous manqué avec Fiat. Un des actionnaires, l'État français, devra défendre sa position. Lui qui est accusé d'avoir fait capoter l'affaire et qui, par son attitude, a fragilisé la position du tout nouveau patron, Jean-Dominique Senard. Explication de Maxime Deps.
La rumeur de sa démission a circulé ce week-end dans l'entreprise. Jean-Dominique Senard a peu goûté l'interventionnisme de l'État dans le dossier Fiat, reconnaît un syndicaliste. Il a été passablement agacé, à tel point qu'en interne, on s'interroge. La sortie de Bruno Le Maire samedi lors du G20 au Japon n'a sans doute pas été faite au hasard, décrypte un salarié. Lorsque le ministre dit que l'État pourrait réduire sa part dans l'alliance Renault-Nissan, il s'adresse aux Japonais, certes d'un côté, mais répond peut-être aussi quelque part au mécontentement de Jean-Dominique Senard. Le diplomate Matt Senard, qui était, semble-t-il, prêt à foncer dans ce dossier Fiat, mais qui a donc été freiné par l'État actionnaire. Cet État qui a bien montré, lors du dernier conseil d'administration, qu'il ne prenait pas ses ordres de Renault. À la lueur de ce qui vient de se passer, d'autres, à moins, seraient à se poser la question de leur légitimité, commente un fin connaisseur du dossier qui ajoute « Faire face à un tel désaveu, une telle claque de son actionnaire principal, 3 mois seulement après son arrivée, on est en droit de se demander si ça vaut la peine de persévérer. »
Parallèlement, selon le Financial Times, Renault menacerait son partenaire Nissan, dont il détient un peu plus de 43% du capital, de bloquer la réforme en cours de la gouvernance de l'entreprise. Dans une lettre adressée à Nissan par Jean-Dominique Senard, ce dernier annoncerait en effet son intention de s'abstenir lors du vote de cette réforme en Assemblée Générale. Le lundi de Pentecôte en France, devenu journée de solidarité en 2004, une journée pendant laquelle celles et ceux qui travaillent le font la plupart du temps gratuitement. Les bénéfices, comme chaque année, sont alloués au financement de la perte d'autonomie des personnes âgées et handicapées. D'après la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, cette journée devrait permettre de récolter cette année 2,8 milliards d'euros. Un monastère du 4e siècle, actuellement restauré en plein cœur de la bande de Gaza. Des archéologues et des humanitaires volent depuis quelques semaines au secours de cet édifice, considéré comme un des plus anciens témoignages de la présence chrétienne en Terre Sainte. Gouvernée par le Hamas, la bande de Gaza ne compte plus qu'un millier de chrétiens sur 2 millions d'habitants, mais elle regorge de trésors archéologiques, dont ce monastère de Saint-Hilarion, découvert en 97. Un projet de conservation d'ampleur a été lancé pour sauver ce patrimoine inestimable et peut-être en faire un site touristique à l'avenir. Le reportage de Marine Vlaovic.
Des ouvriers s'affairent au milieu des vestiges du monastère de Saint-Hilarion. René Elter supervise le chantier.
Là, on est en train de débiter des très gros blocs de pierre qui vont servir à restaurer les maçonneries.
Archéologue attaché à l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, il a participé aux premières fouilles sur ce site du 4e siècle qui s'étend sur 15 000 mètres carrés. Un trésor menacé par les guerres ou encore l'urbanisation sauvage qu'il faut sauver à tout prix.
Ça permet d'expliquer l'histoire de Gaza. Ça permet aussi d'expliquer ce qu'est un monastère, c'est quoi un baptistère, c'est quoi une chapelle. Le but du jeu, c'est d'en faire un site qui va durer dans le temps et qui est à même de recevoir une forte influence de visiteurs, qui pour l'instant est essentiellement gaziote, mais j'espère un jour pourra être autre.
Aux côtés de l'école biblique et du British Council qui ont lancé ce projet de conservation d'ampleur, l'ONG Première Urgence Internationale fait intervenir une cinquantaine d'étudiants locaux en archéologie comme Dalia.
J'ai toujours rêvé de faire ça, c'est une chance d'avoir été sélectionnée. Je suis heureuse d'être ici.
Prochaine étape, la restauration des mosaïques millénaires. Certaines sont en miettes. La fin des travaux de préservation est prévue au printemps prochain.
Reportage de Marine Vlaovic. Le mouvement de désobéissance civile au Soudan continue, tout comme le face-à-face entre civils et militaires. Les premiers demandant aux seconds de leur laisser le pouvoir. Hier, 4 personnes ont été tuées. Le bilan de la répression s'élève désormais au Soudan à 118 morts et plus de 500 blessés. Au Brésil, des révélations potentiellement explosives sur les responsables de l'enquête anticorruption Lava Jato, enquête qui a abouti à la condamnation et à l'emprisonnement de l'ancien président Lula. D'après le site d'investigation The Intercept, les enquêteurs, en lien avec l'ancien juge Sergio Moro, ont manœuvré pour empêcher le retour de Lula, se basant sur des échanges de messages via la messagerie cryptée Telegram. Les journalistes de The Intercept estiment que les procureurs de Lava Jato ont comploté entre eux et avec Sergio Moro, qui est aujourd'hui le ministre de la Justice de Jair Bolsonaro. La météo, pour terminer ce journal, un temps toujours instable aujourd'hui d'après Météo France. Sur toute la moitié sud et sur l'est du pays, le temps sera souvent nuageux, ce qui donnera des averses. De la Bretagne jusqu'aux Hauts-de-France, les pluies seront plus fréquentes, tant en revanche clément le long de la Méditerranée. Température maximale en légère baisse de 16 à 29 degrés en métropole, jusqu'à 32 degrés en Corse.